Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Voici donc mon exposé du mois de mars qui sera consacré à l'Espagne au XVIe siècle. Si l'on s'en tient aux poètes de leur temps, notamment le Tasse, l'Italie, après Machiavel, a sombré dans une espèce de mollesse, tandis que l'Angleterre se rivait au protestantisme. L'Espagne, elle, se rivait au catholicisme et devenait en quelque sorte son bras droit. Elle envoyait en Amérique des conquistadores attirés par les richesses matérielles, mais aussi des saints. Pizarro, Cortés, mais aussi Luis Bertrand, premier évêque de Madrid, canonisé en 1601, Las Casas, le grand défenseur des Indiens. Saint François Xavier se chargea de l'Asie. Les deux maîtres mots de l'Espagne étaient le croissant et l'épée. La campagne espagnole se remplissait de châteaux et d'églises. 1492 vit la chute du royaume musulman de Grenade. L'église régnait sur toute l'Espagne. Don Juan d'Autriche, qui commandait la flotte espagnole à Lépante, avait été élevé par deux carmélites qui vivaient en ermite. Le successeur de Charles Quint, Philippe II, était très religieux. Il plaça dans son palier un cimetière, et le palais l'Escurial, lui-même, avait une forme de grille, instrument de supplice de Saint-Laurent. Il y inclut aussi un couvent de 50 puis de 100 moines. Nous ne sommes pas à Versailles. C'était un grand travailleur, mais du type bureaucrate. Les saints se sont multipliés en Espagne. À Grenade, Jean d'Avila fut un grand prédicateur. Dans son auditoire, il y avait un ancien soldat d'Afrique qui, converti à l'âge de 40 ans, se mit au service des malades et des fous. Il fonda l'ordre des hospitaliers. C'était Saint Jean de Dieu. Il organisa aussi des quêtes pour racheter les chrétiens vendus comme esclaves aux musulmans. Dans ce siècle, on compta en Espagne 18 saints et non des moindres. Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, Bertrand, premier évêque du Mexique, Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, etc. En regardant une carte de l'Europe occidentale, on peut tracer deux diagonales. Une diagonale mystique qui joint l'Espagne à l'Allemagne, Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Hildegarde, le Gréco et Dürer, et une diagonale du théâtre de l'Italie à l'Angleterre, de Verdi à Shakespeare. La France est à la croisée des deux diagonales. La victoire de Lépante en 1571 fut très importante pour l'Occident, car elle marqua l'arrêt de l'expansion ottomane. Certes, il y eut encore des incursions. Molière y fait allusion dans les fourberies de Scapin, mais qu'allait-il faire dans cette galère? Mais il n'y avait plus de risque d'invasion militaire en Europe. Travailleur d'une grande piété, Philippe II était plutôt renfermé. Il vivait retiré dans son palais, souvent morigéné par son confesseur, qui lui conseillait entre autres de sortir pour cultiver sa popularité. Il voulait surtout conserver la foi dans son royaume. Par exemple, il chercha à faire passer une loi pour surveiller les lectures des jeunes filles qui se trouvaient éloignées de leurs parents. Philippe II entretenait une cour très brillante, tout en étant austère. Après la mort de sa première femme, Marie Tudor, il organisa pour la veuve, Élisabeth, fille d'Henri II de France, un grand auto-da-fé qui dura de 6h du matin à 2h de l'après-midi, avec une immense procession de toutes les couleurs et des prédicateurs s'adressant à 600 condamnés. Élisabeth, son épouse, trouvait cette cérémonie plutôt dure à supporter, et la cour en général. L'Espagne était rivée au catholicisme comme l'Angleterre au protestantisme. Le XVIe siècle fut pour elle un siècle d'or. La carrière de ces saints était loin d'être tranquille. Prenons l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila. Elle était la troisième enfant du deuxième mariage de son père, un gentilhomme peu expert en affaires mais très charitable. Le grand-père de Sainte Thérèse, d'origine juive, s'était converti en 1485. La mère de Thérèse, très douce, l'éleva dans une atmosphère de grande piété. À 7 ans, Thérèse voulut quitter la maison avec son frère et partir en mendiant vers le pays des morts pour l'amour de Dieu afin d'être décapitée. C'est ce qu'elle a noté dans ses mémoires. Elle était très jolie et comme toute jeune fille cherchait à plaire. Adolescente, elle craignait à la fois le mariage et l'état religieux. À 16 ans, elle sentit croître l'appel du Christ, mais elle hésitait encore. Son père l'envoya pensionnaire au couvent des Augustins, dont elle sortit assez vite, malade, car elle était de santé délicate. Elle hésita sur son avenir jusqu'au départ pour les Indes de son fidèle compagnon de jeu, un certain Rodrigue, en août 1535. Elle avait donc 20 ans et quitta la maison paternelle pour le couvent des Carmélites au petit matin. Elle assure dans ses mémoires « Je souffris tant que je ne crois pas que ce puisse être pire quand je mourrai. » Mais dès qu'elle eut pris l'habit, elle sentit une grande joie. Le couvent avait une règle allégée, pas de clôture et la possibilité illimitée de longs parloirs. Malgré cela, le changement du rythme d'existence et de nourriture altérèrent sa santé. Elle tomba gravement malade et son père l'envoya chez sa sœur pour une cure de repos, pendant laquelle elle lut le livre d'un franciscain sur le recueillement. Le livre recommandait de se rendre aveugle, sourd et muet par rapport au monde, afin de fixer le regard de l'âme sur Dieu seul. Elle apprit ainsi à faire oraison. Dieu se manifesta à elle dans l'intimité de son cœur. Elle ne put s'empêcher de se faire l'apôtre de l'oraison auprès de ses amis, afin de les entraîner à sa suite. Elle retourna au couvent, mais y resta pendant très longtemps, percluse pendant très longtemps, disant que l'essentiel était d'accomplir la volonté du Seigneur. Elle fut guérie en 1542, elle avait 27 ans. Il ne lui restait, disait-elle, à combattre que les péchés véniels, tels que mal parler, s'emporter, s'adonner à de vains bavardages au parloir, s'infatuer de la considération qu'elle pourrait inspirer, de vanités diverses et de mondanité. À 28 ans, elle perdit son père, ce qui la peina profondément. Elle conduit ensuite ce qu'elle appela sa conversion. Le Christ lui apparut pour lui reprocher ses amitiés très inutiles. Elle prit la résolution de se consacrer davantage à l'oraison, de se détacher de tout pour être davantage unie à Dieu. Elle craignit d'être tentée par le démon, mais le Christ lui disait « N'aie pas peur, ma fille, je ne t'abandonnerai pas, ne crains rien. » Elle s'enfonça dans une vie d'oraison, vivant en recluse, pour mieux vaincre ses affections mondaines. Du coup, elle fut rejetée par beaucoup. En 1560, elle avait 45 ans, elle connut la fameuse transverbération. « Je voyais un ange dans sa forme corporelle d'une grande beauté, tenant dans ses mains un long dard en or avec un feu au bout de la lance. Il l'enfonça dans mon cœur jusqu'à mes entrailles. En le retirant, il me laissa toute embrasée d'un grand amour de Dieu. Elle connut plusieurs manifestations semblables, parfois en public. Elle est représentée ainsi dans la cathédrale de Burgos. La même année, elle rencontra Pierre d'Alcantara, qui l'incita à fonder un nouveau monastère dans lequel on respecterait les règles primitives du Carmel. La statue de la cathédrale de Burgos est remarquable. Malgré de sérieuses difficultés de tous ordres, ce monastère fut inauguré le 24 août 1562, l'autorisation officielle n'étant donnée que 2 ans plus tard. Une nouvelle étape commença alors pour Sainte Thérèse, qui se vit amenée à fonder des couvents en Castille et en Andalousie. Elle connut beaucoup de déplacements très pénibles dans des chariots ou à dos de mulet, cherchant de l'argent et dirigeant les travaux. Elle fonda 15 couvents. Saint Jean de la Croix était à ses côtés. En 1572, le Christ lui apparut pour lui dire qu'il la considérait comme son épouse. C'était la dernière étape de son itinéraire. Le Christ lui avait dit « Tu ne répondras pas de mon honneur en tant que ton Créateur, ton Roi, ton Dieu, mais comme la véritable épouse. » Les dernières années furent loin d'être tranquilles. Physiquement, son corps était usé par les travaux et les privations. À Noël 1575, elle reçut l'ordre de cesser ses activités pendant que Saint Jean de la Croix était emprisonné à Tolède. En 1577, elle eut le bras cassé à la suite d'une chute. Elle perdit son frère, là aussi bien-aimé, en 1580. Les couvents fondés par elle prenaient quelques distances. elle se sentait de plus en plus seule. Après un dernier déplacement à Burgos, elle voulut rentrer dans son couvent, mais en cours de route, elle eut une hémorragie et dut se mettre au lit. Le 3 octobre 1582, elle reçut les derniers sacrements et mourut le 4 octobre après avoir beaucoup souffert. On dit qu'elle mourut dans la nuit du 4 au 15 octobre, car 1582 fut l'inauguration du calendrier grégorien qui supprima 10 jours afin de le recaler sur la réalité astronomique. Les orthodoxes ont gardé le calendrier julien qui a maintenant 3 jours de retard de plus. Sainte Thérèse n'a rien fait comme tout le monde. Elle sait, puisqu'elle est morte la nuit du 4 au 15 octobre. Elle chercha toujours en priorité l'amour de Dieu et les moyens de lui plaire. Elle laissa de nombreux écrits, dont une autobiographie et un livre didactique, Le chemin de la perfection. Elle fut déclarée docteur de l'Église, comme ce fut la première femme, par Paul VI en 1980. Son rayonnement spirituel s'étendit rapidement. Il faudrait aussi parler de Saint Jean de la Croix, né en 1542, 27 ans après Sainte Thérèse, né pauvrement dans la famille d'un pauvre tisserand d'origine noble. Il était un enfant avide de savoir et de prière, remarqué par la gentillesse et sa débrouillardise. Refusant le confort, il avait eu de la réussite dans les études qu'il avait faites chez les jésuites. Il rentra chez les Carmes en 1563, à 21 ans. Dès son noviciat, on le vit prendre sa vie religieuse au pied de la lettre, mettant en priorité le silence, l'adoration et le dépouillement. Le dépouillement à l'image du Christ. Il laissa de nombreuses œuvres qui lui ont valu d'être nommé le saint patron des poètes espagnols. Le chemin de Saint Jean de la Croix est le chemin de la nuit, du crépuscule, où tout disparaît, peu à peu, jusqu'à l'aurore, où l'âme connaît la purification radicale opérée par l'amour divin. Au début, l'âme est séparée de tout, de tous ses attachements, à des choses sensibles, comparables un peu aux doudous des petits-enfants. Ces petites peluches qui leur permettent de soulager leur peine. Une fois détachés de tout, Dieu seul est capable de retenir notre attention. Plusieurs grands mystiques ont connu cet abandon auquel Dieu les a condamnés pour un temps, comme Jésus sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Mère Teresa l'a dit l'avoir expérimenté pendant plusieurs années. Qu'elle avait goûté le pain noir des athées. Le Christ se cache pour mieux se faire désirer. Rien de commun avec l'homme actuel, soucieux de son rendement, attaché de tout son poids au sol et aux jouissances de ce monde. Telle était l'Église au XVIe siècle, après la découverte de l'Amérique, à l'orée de quelques siècles qui amèneront l'Europe à régner sur le monde et à envoyer ses missionnaires à sillonner la planète. Je vous souhaite un bon carême